pour nous, pour les biologistes, et donc c'est ça qui est très chaud en ce moment en biologie, c'est qu'en fait, on a toujours dit, enfin, on a souvent dit, que les systèmes biologiques étaient merveilleux, qu'ils essayaient, qu'ils pouvaient s'adapter à tout, qu'ils étaient. Quelque part, il y avait cette idée un peu de taylorisme derrière qui disait, bah oui, en fait, c'est le top du taylorisme, ils font tout parfaitement, les systèmes biologiques, ils sont parfaits, voilà. Et en fait, avec tout ce dont on se rend compte en ce moment, maintenant, on est en train de se rendre compte que ce qui fait que les systèmes biologiques sont si adaptables et tout ça, ça tient à des aspects plutôt perçus négativement, que sont l'inefficacité, l'hétérogénéité, la stochasticité, donc le côté aléatoire, la lenteur, la redondance, donc un certain nombre de concepts comme ça qui sont plutôt négativement. Si on devait dessiner une société avec ces mots-clés-là, enfin, si vous êtes, vous passez une élection et vous mettez ça comme programme, je défie quiconque d'être élu. Hein. Mais la sélection naturelle a choisi ce programme-là. Voilà. Donc, voilà, c'est pas mal. Alors, donc, je vais prendre quelques exemples, mais Camilla après prendra quelques autres exemples. Donc, j'espère que ce sera complémentaire, mais bon. Alors, un exemple typique, c'est l'exemple des maladies. Je prends des exemples très très grande échelle pour commencer, parce que c'est peut-être ce qui parle le plus facilement. Donc ici, si vous avez une population qui est très homogène génétiquement, si vous avez des clones par exemple, et il y a un virus qui arrive, la population est, s'il y a un individu qui est sensible à ce virus par exemple, toute la population est sensible. Donc vous voyez la valeur ajoutée d'avoir une population hétérogène, c'est qu'il y aura toujours des individus qui vont finir par résister. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit en agriculture, et donc qui fait qu'un champ de maïs, par exemple, comme ça, une monoculture, n'a aucun sens biologique. Hein. Ça n'existe ça parce qu'on est capable de mettre des tonnes de chimie sur un champ, hein, dans un nuage protecteur, entre guillemets, et c'est possible de faire de la monoculture parce qu'on a la chimie, sinon ça n'a pas de sens biologique. Hein. Donc c'est pas résilient. Hein, donc ça c'est l'exemple grande échelle, mais je vais vous donner un exemple de notre laboratoire où en fait on s'est rendu compte que cette idée d'hétérogénéité, elle est vraie, enfin elle a aussi un rôle dans la construction des organismes. Donc là vous avez c'est le méristème apical collinaire.
Pardon.
Donc c'est un gros mot, collinaire. C'est un gros mot, mais c'est pas la peine de savoir ça. En gros, dans les bourgeons, il y a des cellules souches. Il y a aussi des cellules souches chez les plantes. Et elles génèrent tous les organes. Donc tous les organes aériens de la plante sont générés par ce groupe de cellules. Et en fait, on se rend compte que ces cellules-là, à l'échelle de la population de cellules, c'est très 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 hétérogène. Des cellules qui ont à peu près la même forme, vue de loin, en fait, génétiquement, elles sont très, très, très hétérogènes. En termes de croissance, des cellules voisines, il y a une cellule qui peut croître 6 fois plus vite que sa voisine. Donc, vous voyez un petit peu les problèmes, quoi. Vous avez des cellules très, très, très hétérogènes. Et alors, on pourrait se dire, bon, ça, c'est du bruit, quelque chose, la biologie doit faire avec, elle n'a pas le choix, c'est hétérogène, elle aimerait bien être homogène, mais voilà, elle est hétérogène. Alors, en fait, pas du tout. On s'est rendu compte, donc là c'est juste une simulation. Ah oui, mais là du coup, après, je pense qu'il n'y a pas de verre. Ah si, ça vient. Donc c'est une simulation informatique qui montre un petit peu comment les organes émergent, comme ça, dans une plante. Et en fait, on s'est rendu compte que non seulement l'hétérogénéité était nécessaire à l'organogénèse, donc à la formation des organes, mais que les cellules en fait utilisaient les conflits mécaniques, donc les conflits entre cellules, donc toutes ces hétérogénéités, pour faire l'organogénèse. Si vous mettez une croissance très homogène, si vous empêchez l'hétérogénéité, la plante est incapable de générer des organes en fait. Donc elle est un peu bloquée quoi. Elle y arrive mais très difficilement en fait. Donc cette hétérogénéité, elle est vraiment nécessaire à. Enfin donc on peut par extrapolation, hein, c'est vrai aussi chez les animaux. Alors d'ailleurs j'ai une illustration ici. Ça, c'est un embryon de drosophile. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, c'est les étapes précoces. Donc il y a beaucoup de mouvements comme ça, de cellules qui se déplacent. La toute première étape, c'est des toutes petites contractions de cellules. Et donc pendant très longtemps, on a pensé que ces toutes petites contractions, ça ne servait pas à grand-chose, que c'était juste là pour amuser le microscopiste. En fait, on s'est rendu compte que ces contractions hétérogènes, aléatoires, redondantes, qui paraissait inefficace, parce que ça consomme de l'énergie et tout ça, en fait c'était essentiel pour initier une voie de signalisation qui induit tout ce qui suit derrière. Quoi. Donc voilà, c'est juste des petits exemples pour dire que ça va au-delà du champ de maïs, c'est vrai à plusieurs échelles aussi, hein, cette hétérogénéité. Je vais peut-être zapper la prochaine diapo. Est-ce que Camille, tu vas parler des antibiotiques ou non? Ok. donc là, c'est juste un exemple de l'aléatoire. Donc là, vous voyez des bactéries en microscopie électronique. Donc c'est des petits bâtons. Dans ces cas-là, il y a toutes les formes possibles hein, dans les bactéries. Mais souvent, elles ont des formes de bâtons comme ça. Là. Donc si vous prenez une bactérie et que vous la mettez dans une boîte de pétri, elle va se diviser, ça va faire des colonies énormes de clones. C'est toutes des bactéries qui sont identiques génétiquement, elles ont le même contenu, elles sont dans les mêmes conditions de culture, à la même température, vraiment tout est identique. Et donc on peut imaginer que ça, c'est une population très 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 homogène. Et en fait, quand on regarde génétiquement, donc là, ce que vous voyez, le code couleur, là, c'est une protéine fluorescente qui est, c'est juste un gène, hein, qui est exprimé de façon totalement différente entre ces différentes bactéries. Pourtant, toutes ces bactéries viennent d'une bactérie. Hein. Une bactérie qui s'est divisée, c'est un clone parfait dans les mêmes conditions, et en fait, c'est totalement hétérogène, donc il y a une partie totalement aléatoire dans l'expression des gènes également. Qui en fait va, et bon, une des raisons de cette étude, c'était pour montrer la résistance aux antibiotiques, parce que l'idée que des bactéries résistent ou non aux antibiotiques, elles ont ou non le gène qui fait qu'elles résistent à l'antibiotique, c'est beaucoup trop simpliste évidemment. Avoir le gène, c'est pas suffisant, il faut aussi l'exprimer au bon moment, etc. Il y a aussi des gènes cryptiques, etc. Enfin, bon, c'est très compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le côté aléatoire est hyper important pour comprendre la résistance des bactéries aux antibiotiques. Et donc pour elles, c'est une forme de résilience, évidemment. L'aléatoire leur permet, au niveau de la population, de résister à des conditions hostiles, si vous voulez. Donc c'est à l'échelle d'une bactérie. Alors je vais prendre un ou deux autres, je crois que c'est juste un ou deux autres exemples. Mais un exemple que j'aime beaucoup, les cellules souches. Tu parles des cellules souches ou... Non, parfait, c'est bien, on est complémentaires. Donc les cellules souches, c'est un exemple que j'aime beaucoup parce que bon, c'est quelque chose dont vous avez certainement dû entendre parler, on entend vos infos tout le temps. Donc on a tous des cellules souches. Ces cellules, c'est des cellules qui permettent de régénérer des organes notamment, ou de régénérer les cellules du sang. Donc c'est des cellules qui sont tout le temps là et qui permettent de refaire notre pool de cellules. Et c'est des cellules qui sont indifférenciées, qui n'ont pas de particularités bien définies, et qui peuvent faire à peu près n'importe quoi. Donc elles peuvent faire des neurones, du muscle, enfin, j'exagère un peu, mais c'est presque ça, quoi. On peut faire différentes identités. Ok, donc ça c'est ça la définition d'une cellule souche. Et pendant très longtemps, on s'est dit, ben, les cellules souches, elles doivent avoir un programme spécifique qui fait qu'elles sont cellules souches, qu'elles ont cette qualité-là, elles doivent avoir le gène de la cellule souche, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'une cellule souche, ce qui la caractérise le plus, c'est sa lenteur. En fait, une cellule souche, elle reçoit des signaux qui lui disent ben voilà, maintenant il faut que tu te différencies en muscle. Donc elle commence à synthétiser les ARN, les protéines, enfin toute la machinerie, toutes les molécules qui sont nécessaires à cette différenciation. Et puis à partir du moment où elle est quasiment prête à être un muscle, hop, elle reçoit un autre signal qui lui dit ben maintenant il faut se différencier en neurones. Donc du coup, elle détruit tout ce qu'elle a fait là, elle recycle hein, quand même, et hop, elle va quand lancer le programme pour devenir un neurone. Mais en fait, ce qui fait que... Et du coup, elle hésite, en fait. Une cellule souche, c'est une cellule qui hésite en permanence, en fait. Et qui est, en fait, incapable de décider. Et c'est ça sa force, en fait. Alors, la lenteur, c'est la source de la cellule souche, en fait. C'est-à-dire que parce que tous ces processus sont inefficaces, la transcription, la traduction, ça met beaucoup de temps avant d'avoir une protéine, enfin, à l'échelle d'une cellule, hein. C'est relatif évidemment, c'est quelques minutes quand même. Vu que c'est pas très efficace, c'est pas instantané, et ben, du coup la cellule elle a le temps de changer d'avis, quoi. J'anthropise un petit peu. Mais voilà. Disons que ce que je veux dire surtout là, c'est que c'est cette lenteur. Donc en fait, ce que vous voyez sur ces deux graphes là, donc en haut, vous voyez des oscillations, donc c'est des cellules qui, c'est un modèle informatique, hein, encore une fois, ce sont des cellules qui commencent à se différencier dans un sens et puis qui reviennent à leur état initial et puis qui se redifférencient dans autre chose et puis qui reviennent à leur état initial, donc c'est des cellules souches. Et puis, quand on arrive à un seuil suffisamment important, que le signal est suffisamment fort, qu'il est suffisamment long dans la durée, bon bah là, finalement, elles vont finir par se différencier. Mais il y a eu le filtre de la lenteur qui leur aura permis de rester cellule souche. Redondance. Ça peut, je peux passer sinon.
Si. Pas sûr.
Tu vas parler, ok. Et méiose.
Non.
Non. Ok, alors sur la méiose, donc la reproduction sexuée. Donc c'est, on fait des gamètes, on mélange, on brasse les gènes, etc. Donc ça, voilà, c'est, nous, ça nous paraît tout à fait naturel. En fait, c'est quand même, d'un point de vue, enfin, si on prend un point de vue très extérieur, c'est très risqué. Parce qu'un individu, dans son environnement actuel, s'il arrive à la maturité sexuelle, ça veut dire qu'il est adapté à son environnement. Donc pourquoi aller brasser des gènes, prendre le risque de ne pas être adapté à son environnement, alors que, en fait, être, se reproduire de façon clonale serait, aurait plus de sens, hein, quelque part. C'est que vous savez, vous avez la validation que vous êtes adapté à votre environnement. Vous êtes adapté au milieu de Villeurbanne, de l'ISC, là, c'est bon. Donc, ce serait plus safe, quelque part, de vous cloner, parce que vous savez que votre progéniture sera adaptée à votre environnement. Ce que la biologie a sélectionné, c'est de brasser tous ces gènes, de lancer la loterie et de donner quelqu'un dont on ne sait pas s'il sera adapté à l'environnement. C'est ça, hein, la reproduction sexuelle. Alors, l'avantage, évidemment, au niveau de la population, c'est qu'on maintient cette hétérogénéité, donc toujours pareil, et du coup, au niveau de la population, ça a du sens, mais au niveau individuel, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, vous perdez le confort d'être sûr d'avoir quelqu'un, d'avoir une personne qui sera adaptée à l'environnement. Et alors, il y a une deuxième dimension là-dedans, c'est que ce processus de diversification génétique ou de brassage génétique est basé sur un mécanisme qui s'appelle la méiose. Et la méiose, c'est un processus, une division particulière des cellules qui est construit sur l'erreur. C'est-à-dire qu'en fait, une idée, c'est que l'évolution de ce mécanisme de méiose, il y a des erreurs en permanence, hein, dans les cellules, hein, dans l'ADN, il y a des mutations qui arrivent, on a, je sais plus, c'est 10 000 mutations par minute, un truc comme ça dans notre corps, là, hein, donc je sais pas combien vous avez eu de mutations depuis que je parle, là, mais c'est énormément de mutations. Et donc il y a plein de systèmes de réparation des mutations, donc des molécules qui sont là pour réparer, qui le font plus ou moins bien, encore une fois. La méiose, les outils moléculaires qui font la méiose, en fait, réparent moins bien. En fait, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, elles font tout pour ne pas réparer, en fait. Donc, pour générer des erreurs, pour générer beaucoup plus d'erreurs, et en fait, c'est ça qui permet le brassage génétique, en fait. C'est qu'en fait, on génère des grosses cassures dans les chromosomes, du coup, il faut en faire quelque chose, du coup, on les raccroche, et du coup, on mélange, quoi. Je ne sais pas si je suis très très clair, mais c'est au niveau moléculaire, c'est basé sur des erreurs et sur la promotion des erreurs. Voilà. Donc encore une fois, hein, c'est quelque chose de sous-optimal, dans le sens où si dans une société optimale, on aurait plutôt tendance à réduire les erreurs. La biologie les augmente dans certains processus. Et donc, j'en arrive à cette conclusion, c'est que ce qui fait la robustesse des systèmes biologiques, c'est leur fragilité interne, locale. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose qui va un peu à l'envers de ce que nous, on veut faire, la société, c'est de faire des choses robustes à toutes les échelles. La biologie a clairement choisi la robustesse à l'échelle de la population. Et elle construit cette robustesse sur une fragilité locale individuelle. Alors, je vais passer le manche bientôt. J'ai juste deux illustrations pour ouvrir un petit peu. Donc là, ce que je vous ai raconté, c'est sur la biologie. Donc, Kintsugi, exactement. Donc, c'est des idées qui sont quand même un peu au-delà de la biologie aussi. Donc là, c'est le Kintsugi. Donc, cet art japonais où on marque les fêlures, hein, quelque part. Et quelque part, on met en avant l'histoire, et quelque part, l'objet devient encore plus beau parce qu'on ne masque pas les fragilités, on ne masque pas les erreurs, on les met en avant. Voilà. Et une perche, cette sous-optimalité, on la voit dans d'autres domaines, et notamment dans le langage. Tout ce dont je vous ai parlé en biologie, il y a un mot en commun, c'est communication. C'est des cellules qui communiquent les unes avec les autres. C'est des communications entre générations, c'est des communications entre individus qui font que la population sera robuste ou pas. Donc il y a cette idée de communication, et en fait dans le langage, dans l'écriture, on autorise les erreurs, les langages, les écritures sont flexibles, il peut y avoir des typos dans les textes, on comprend le texte quand même, et quelque part cette flexibilité-là permet de communiquer, peut-être de façon plus... plus facile quelque part, et ça permet la coopération, ça permet la confiance, donc il y a des effets sur la population aussi assez importants.
J'ai une question.
Oui.
Pour la sous-optimalité, l'exemple que tu as donné des enzymes dont l'optimalité est à 40 degrés,
Ouais.
Alors qu'on est à 37.
Oui.
Comment on explique ce décalage ici?
Alors bon, c'est toujours difficile. Le pourquoi en biologie, on a beaucoup de mal à répondre, hein, parce qu'on ne peut pas parler d'intention depuis Darwin. Donc du coup, on ne parle que du comment. Mais si on voulait quand même répondre, on est entre nous. Une possibilité, c'est une réponse au pathogène, donc c'est la fièvre, quelque part. C'est que d'être un petit peu en dessous de l'optimum fait qu'en fait, on a cette gamme, ces 3 degrés-là, qui nous permettent, en fait, qui permettent aux enzymes d'être plus efficaces s'il y a un pathogène qui arrive, donc d'avoir un coup de boost. Si vous voulez, c'est l'état d'urgence. Voilà, ce que devrait être l'état d'urgence,
ah oui.
C'est quelque chose de très ponctuel, qui ne dure pas, mais qui est là pour répondre à un pathogène. Si on le fait durer, en fait, je ne vais pas faire. Mais si on laisse la fièvre à 40 degrés, on meurt. Hein. Donc ça ne peut être que quelque chose de ponctuel qui est là juste pour répondre à avoir une petite marge de manœuvre.
C'est ça. Si l'optimalité était à 37 degrés et qu'on a la fièvre, on est mal parti parce qu'à ce moment-là, les enzymes fonctionnent moins bien alors qu'ils devraient mieux fonctionner mieux. D'accord. Merci.
Ça intègre le changement et les variations.
Oui.
En fait, cette diversification, elle permet d'être toujours à peu près ad hoc sur une situation quelle qu'elle soit.
Absolument. En fait, la biologie intègre le temps. Donc, nous, on a tendance à avoir le confort individuel à l'instant T. Je veux mon Coca-Cola maintenant. La biologie dit non, moi je veux que 10 générations plus loin, j'ai toujours ça. En fait, l'épigénétique maintenant est bien connue. On voit qu'il y a des effets transgénérationnels qui dépassent. Vous avez tous des marques de vos grands-parents chez vous, hein, dans vos gènes. Le temps est beaucoup plus long en biologie. Et du coup, ça intègre toutes les fluctuations qui se passent.